les enfants de Chronos.
Lionel Mazet, archéologue. Notre-Dame de Morienval est l'une des églises les plus célèbres de l'Oise. À l'époque où on cherchait en vain à déterminer quelle était LA première église gothique de France, Morienval, aux côtés de Saint-Denis ou Saint-Martin-des-Champs à Paris, faisait partie des candidates. Elle est pourtant une église essentiellement romane, mais qui présente déjà quelques caractères du nouveau style gothique. On sait aujourd'hui qu'il est aussi inutile de chercher la première église gothique que le premier humain ou le premier locuteur du français. Le passage du roman au gothique est le fruit d'un changement progressif. Une transition que Morienval illustre à merveille grâce à sa reconstruction intégrale entre 1050 et 1135, qui lui confère un intérêt architectural exceptionnel reconnu très tôt. Dès 1840, elle figure sur la toute première liste des monuments historiques. Elle est aussi citée par Eugène Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture. Cette notoriété a parfois éclipsé l'histoire de l'église. Et on oublie parfois que Notre-Dame de Morienval était à l'origine l'église d'une abbaye de moniales bénédictines. L'abbaye aurait été fondée par Dagobert. C'est douteux, car il n'existe aucune charte de fondation. Le document le plus ancien est l'œuvre du roi Charles le Simple et date de 920. Il est adressé aux frères et aux saintes moniales de l'abbaye, ce qui indique qu'il s'agissait alors d'un monastère double. C'était alors un cas fréquent. Autre caractéristique, fréquente jusqu'à la réforme grégorienne, il était alors dirigé par un abbé laïque, qui n'était autre que Robert, le grand-père d'Hugues Capet. Le roi intervient en 920, car tous les titres de propriété ont été perdus dans un incendie. La charte ne mentionne ni la date de fondation de l'abbaye, ni la cause de l'incendie. C'est plus tard que naîtront deux légendes sur ces événements. L'une d'elles, assez anecdotique, veut que cet incendie soit dû à une attaque des Vikings. C'est assez peu probable, le document de Charles le Simple le préciserait certainement. L'autre légende, plus intéressante, est celle justement qui attribue la fondation de l'abbaye à Dagobert. Oui, c'est bien celui qui, dans la cantine, mettait sa culotte à l'envers. Dagobert Ier, roi des Francs de 629 à 639, fut pourtant un très bon monarque et l'un des rares rois mérovingiens qui conserva une bonne image à travers les siècles, y compris sous les Carolingiens, lorsque les lettrés de l'entourage de Pépin le Bref et surtout de Charlemagne donnèrent aux souverains mérovingiens l'image de roi fainéant qui leur colle encore aujourd'hui à la peau. Il fallait bien légitimer la prise de pouvoir de la nouvelle dynastie. Mais Dagobert, comme nous l'avons dit, conserva l'image d'un bon roi. Il était donc logique qu'un monastère au fondateur inconnu, mais à l'origine ancienne, se réclame de lui. Est-ce impossible? Pas complètement. Premièrement, tout indique que l'abbaye était bien de fondation royale. Cela ne fut d'ailleurs jamais remis en cause, ni par l'abbaye, mais cela était dans son intérêt, ni par les rois, ni par les comtes de Crépy ou les évêques de Soissons. De plus, une statue équestre de Dagobert a longtemps figuré sur la tour de façade de l'église. Elle fut retirée à la fin du XVIe siècle et enterrée dans l'église. Pourtant, les fouilles archéologiques menées n'ont pas permis de la retrouver. Il est donc impossible de s'assurer que la statue représentait bien le roi franc. Ces fouilles, menées en 1855 et en 1900, ont en revanche livré des informations sur le plus ancien état connu de l'église. Une nef datée de la fin du IXe siècle ou du début du Xe siècle. Un vaisseau unique, c'est-à-dire sans bas-côté, mais légèrement plus longue et plus large que la nef actuelle. Les grandes transformations de l'église commencent dans les années 1050-1075. Sur la vieille nef carolingienne, on vient greffer à l'est un nouveau chœur, encadré de deux clochers et de deux absidioles. À l'ouest, un porche marque l'entrée de l'église. La seconde phase de travaux succède immédiatement à la première et se déroule dans le dernier quart du XIe siècle. La nef carolingienne est remplacée par une nouvelle nef accompagnée de bas-côtés. Les croisillons du transept sont également rehaussés. Quatre fenêtres bouchées dans la croisée témoignent de ces deux campagnes distinctes. Sept magnifiques chapiteaux des piliers nord de la nef datent de cette époque. Ils sont de véritables chefs-d'œuvre de l'art roman qui présentent des motifs décoratifs très originaux, volontiers archaïsants qui rappellent des motifs celtes ou mérovingiens. Parfaitement exécutés, ils ne sont pas pour rien dans la célébrité de l'église. Morienval devait alors avoir fière allure. Et pourtant, les premiers problèmes apparaissent rapidement. L'abside, bâtie sur un remblai, n'est pas stable et commence déjà à s'affaisser. On trouve alors une solution très originale, en bâtissant un pseudo-déambulatoire qui vient épauler et stabiliser l'abside. Un déambulatoire, c'est une galerie qui contourne le cœur d'une église et qui permet donc d'en faire le tour sans pénétrer dans le cœur réservé aux religieux, ou ici aux religieuses. Mais celui de Morienval n'est qu'un trompe-l'œil, puisqu'il ne communique pas avec les bas-côtés. De plus, il n'est parfois large que d'une soixantaine de centimètres. Pas de quoi permettre la circulation des pèlerins venus se recueillir sur les reliques de Saint-Anaubert. Oui, je ne vous ai pas encore parlé de ce Saint-Normand. Patience, chers auditeurs, nous y reviendrons très bientôt. Revenons pour le moment à notre pseudo-déambulatoire. Ces chapiteaux datent du tout début du XIIe siècle, légèrement plus récents toutefois que ceux des piliers nord de la nef. Enfin, dans le même temps, le porche est surmonté d'une tour, le troisième clocher, qui offre à l'église sa silhouette si particulière. Enfin, la travée droite du chœur est dotée, dans les années 1120, d'une voûte sur croisée d'ogives, l'une des plus anciennes du département. Il faut dire que l'abbaye a les moyens de ses ambitions. Elle est devenue un lieu de pèlerinage depuis qu'elle a acquis les reliques de Saint-Anaubert, entre 1075 et 1103. Afin de financer la reconstruction de sa cathédrale, l'évêque de Cé, en Normandie, organisa une grande possession des reliques de ce saint à travers la France afin de recueillir des offrandes. L'abbesse de Morienval offrit l'hospitalité pour la nuit. Le reliquaire fut posé dans l'église. Le lendemain, la chasse était devenue trop lourde et impossible à soulever. Devant ce miracle, on décida de laisser les reliques à Morienval et les pèlerins fluèrent. Belle histoire. De nombreux remaniements furent encore apportés au monument jusqu'en 1680. Voûtement du chœur en croisée d'ogives, ajout de chapelle, les travaux sont nombreux et lorsqu'ils cessent, en 1680, l'église a perdu une grande partie de son caractère roman. Comme dans tous les monastères, le siècle des Lumières est à Morienval une période de déclin, marquée par la crise des vocations. S'y ajoute un conflit virulent avec le curé. L'église paroissiale, dédiée à Saint-Denis, était voisine de l'abbaye. Le curé est donc aux premières loges pour constater le relâchement démonial. Les jours de fête, on danse dans le couvent. En 1732, lorsque l'abbesse Marie-Madeleine de Serran de Kerfilly meurt, le curé n'est pas convié aux funérailles. Pour se venger, il tente d'empêcher le peintre envoyé par l'abbaye de peindre la litre funéraire dans l'église paroissiale. Le malheureux manque de tomber de son échelle et se rattrape de justesse à la fenêtre. Le 13 mai 1734, les moniales perturbent la messe que le curé donne chaque année dans l'église abbatiale. Il y a même un procès en 1738. Le curé empoche 4000 livres de dommages et intérêts. Le jeudi saint de l'année 1742, une émeute éclate à Morienval. Traditionnellement, les religieuses offraient du pain et des pois aux habitants. Cette année-là, elles décident de donner la farine au curé environnant, à charge pour eux de la répartir entre les pauvres de leur paroisse. Mais le changement est trop tardif, les gens n'en sont pas informés et se présentent comme chaque année à la porte de l'abbaye. Ils pensent alors qu'on leur refuse leur dû. L'émeute éclate et ne se calme que devant les coups de fusil des domestiques de l'abbaye et la crainte d'un châtiment divin. Mais les moniales craignent désormais pour leur sécurité. Le 16 octobre 1743, Louis XV dissout l'abbaye et les 49 sœurs sont réparties entre les abbayes du Parc aux Dames, de Royalieu et de Villers-Cotterêts. Cela sauve certainement ces établissements dont les effectifs étaient par ailleurs trop faibles. La dissolution de l'abbaye ne met pourtant pas fin au conflit avec le nouveau curé. Officiellement, l'abbaye est réunie à Royalieu, mais l'abbesse compiégnoise se soucie bien peu du village et de ses habitants et disperse les biens de l'abbaye de Morienval. En 1750, l'église paroissiale Saint-Denis est supprimée et détruite. Elle venait pourtant d'être rénovée. Notre-Dame devient église paroissiale, mais officiellement, elle appartient toujours à Royalieu. L'orgue est parti à Montdidier. Les reliques de Saint-Anaubert sont au Parc aux Dames, les boiseries ont été démontées. Le nouveau curé trouve à peine de quoi célébrer ses messes. Malgré ses troubles, l'église survit à la Révolution. Elle est pourtant en très mauvais état en 1840. Elle fera heureusement l'objet de restaurations exemplaires menées en 1878 et en 1900 par l'architecte Paul Selmersheim. La restauration est menée avec une rigueur scientifique et archéologique admirable, surtout pour l'époque, et tente de se rapprocher de l'édifice du XIIe siècle. Le mur nord, qui menaçait ruine, est reconstruit. L'abside est consolidée. Le chœur retrouve même sa voûte nervurée en cul de four. Ce travail admirable a sans conteste sauvé une église qui demeure fragile, mais qui est l'une des plus intéressantes archéologiquement et architecturalement parlant de la région. Lorsque vous la visiterez, chers auditeurs, admirez le bâtiment. Mais ayez aussi une pensée pour tous ceux, abbesses, modèles ou moniales danseuses, religieux procéduriers, paysans affamés, maîtres d'œuvres inspirés et restaurateurs passionnés qui ont fait l'histoire de Morienval, de son abbaye et de son église.